Bah déjà, chacun ne vit pas forcément selon les mêmes perspectives l'épidémie elle-même comme objet. Enfin, tout le monde ne se la représente pas de la même façon fantasmatique. Donc déjà, ça change beaucoup de choses. Chacun n'étant pas confronté à la même chose, ça induit déjà des lignes de fuite très très différentes.
Mais oui, et la situation là agit un peu comme un énorme spot. Tu as toutes les fissures ou les lignes de fuite qui sont d'autant plus évidentes dans les discours, dans la manière dont les gens se comportent. Donc c'est vraiment c'est très intéressant comme moment.
Je ne sais pas si c'est un spot, parce qu'un spot laisserait imaginer que nous sommes en train de mieux voir quelque chose. Alors je pense juste qu'on ce dont on profite là, c'est un changement d'optique. Donc on a un appareil d'optique différent, on change de parallaxe. C'est toujours à côté, parce qu'on regarde toujours à côté. Enfin, on ne peut pas regarder le présent en face, ça n'existe pas ça. Mais d'un seul coup, on a changé de lieu d'observation pour toutes choses, même les choses les plus ordinaires. Je ne pense pas que ce soit plus éclairé que d'habitude, tu vois. Je pense que c'est juste un autre brouillard, mais plus inattendu, peut-être plus créatif, je ne sais pas. Ça, on verra ça une fois que ça se sera légèrement apaisé. Parce que ça ne s'apaisera plus jamais, on va dire, hein, puisque on vit un moment de grande expérimentation sociopolitique, duquel on ne sortira forcément pas indemne, c'est sûr.
C'est ça qui m'intéresse. En fait, quand je parlais de spot, c'était pas tellement pour mettre l'accent sur le fait qu'on voit mieux. C'était plutôt le spot dans la gueule de la personne qui va se faire maquiller. C'était plus ce spot-là, tu vois, sur la vieille peau comme ça, que la lumière. Mais effectivement, j'aime bien ton image d'un autre brouillard.
Ben oui, ce genre de situation, puisqu'elle est générale, invite à des observations et des formulations générales. Or, les formulations générales sont toujours mauvaises, enfin, ça n'existe pas, les bonnes formulations générales. On dit toujours des conneries quand on dit des généralités. Mais comme là, tout le monde semble être pris dans la même chose, même si je persiste à dire que ça n'est pas réellement la même chose, ah ben, du coup, ça y va, les projections. Les généralités, les images mondes, les discours mondes, les délires mondes. Chacun y va de son écriture. À la fois, c'est très beau et c'est très fou.
Oui, en fait, je suis pas trop confronté à, tu vois, à des explications générales, mais c'est comme tu dis, on vit en direct une méga expérimentation sociopolitique. Là, c'est quand même 2 tiers de l'humain. Enfin, voilà, il y a presque 3 milliards de personnes qui sont dans cette condition-là en ce moment.
Là encore, c'est des questions de représentation, parce que enfin, je t'apprends rien en te disant que toi confiné, moi confiné, et mes voisins et leurs deux gosses confinés, c'est pas la même condition. Et du coup, il y a l'illusion d'une espèce de partage général, alors que le prisme de l'épidémie renforce la lecture de classe. C'est-à-dire que plus que jamais, on voit à quel point on n'a pas tous construit ou bénéficié hein, des situations sociales différentes et très très inégales. Moi, par exemple, j'ai lentement et patiemment construit mon existence pour me mettre à l'écart de ce qu'une société capitaliste ou enfin ce qu'une société de loisirs appelle ses bienfaits. Je ne veux pas de ces bienfaits, je n'en ai jamais voulu, je n'en voudrais jamais. Donc, du coup, je ne souffre pas quand je suis séparé de ses bienfaits, puisque je n'en ai jamais voulu. À côté de ça, des tas de modes de vie se sont construits autour de ces bienfaits-là, et ils sont tellement pris qu'on ne peut pas s'en sortir simplement. Et vivre d'un seul coup enfermé avec la chambre d'écho de leur manque, c'est intolérable. Alors, tu rajoutes à ça, évidemment, le fait que selon la plasticité de nos modes de vie, on a su plus ou moins se préserver de la violence quotidienne. Violence domestique, violence conjugale, plein de choses de ce genre, quoi. Du travail. Là encore, ça change évidemment tout. Donc c'est très illusoire l'idée qu'on partage vraiment quelque chose. Il y a des gens, je pense, qui sont assez nombreux finalement, enfin, dans certaines catégories, on va dire politiques, puisque c'est sûrement ça qui a présidé à ces choix. Il y a des gens pour qui ça ne change pas grand-chose, parce qu'ils ont déjà largement opéré leur coupure. Ça ne veut pas dire qu'ils se sont confinés, hein, isolés, ou, pas du tout. Mais ce dont ils se sont coupés ne peut pas leur manquer. Voilà.
J'ai comme ça rencontré effectivement plusieurs personnes dans ce cas-là, tu vois,
Ouais,
qui est le mien aussi.
j'imagine. Bah oui, on a un petit peu le même biotope, toi et moi. On s'est construit des vies, un peu particulières.
Vous êtes bien à l'écoute de Radio Panique.
Actually sick. Sick. Sick.
Mais tu vois, c'est cette disparité de vie, de mode de vie, de chance sociale ou de situation sociale, tu la vois d'autant plus. Bien sûr, on a toujours été sur le même navire, mais c'est comme on a l'impression qu'on est encore plus sur le même navire.
Et là, à cause d'un partage de corps, il n'y a pas de différence corporelle entre un homme politique et moi, il y a un partage de corps devant une question épidémique, la violence de la séparation de vie et de classe entre l'homme politique qui continue à jouer son jeu grotesque et l'ensemble que nous formons qui est censé subir sans broncher cet assujettissement à des règles absurdes. Tout ça est rendu plus cru et plus indigeste que jamais. Le front de, pas de solidarité, mais enfin de sentiment de partage anthropologique entre la grande diversité des composantes d'une société et l'absence de tout partage finalement avec ceux qui s'en empoignent et la muselle, la dresse, tout ça nous saute au visage. D'une certaine manière, on pourrait penser, enfin bon, observer, que si ça existe vraiment, si ce dont tu parles existe vraiment, à savoir une meilleure perspective sur l'unité de l'humanité, pour dire les choses simplement, c'est au prix d'une opposition. D'une opposition franche, lisible, j'espère qu'elle est lisible pour tout le monde. Avec ceux qui s'en extraient toute l'année pour prétendre la domestiquer, cette humanité. Ouais, je vous entends, les poulettes. Bah déjà, ça implique quelque chose qui est un des nœuds du problème de cette situation. C'est la question d'un écart du temps. Parce que tu parles de pause. Ce qui est très curieux dans la situation actuelle, et elle se révèle à travers les activités qui se développent chez chacun, spirituel, physique, enfin, tout ce que chacun fait pour vivre ce temps-là, c'est que ce temps-là est vécu si extraordinairement qu'il sort du régime métaphysique du temps, même si c'est faux, hein, évidemment, rien ne sort jamais de ce régime. Mais d'un seul coup, le seul fait que je vois fleurir, par exemple, des comportements du quotidien qui mettent certaines activités qui étaient jusque-là au sommeil, au premier rang des activités quotidiennes, c'est comme si ce que nous vivons n'était pas du vrai temps. C'est un temps en attendant la reprise du temps. C'est un temps sans conscience de son présent, en fait. C'est un temps latéral. Et ça, c'est ça qui construit des d'étranges relations à la production, à la création, etc. C'est comme si ce temps-là, puisqu'il nous maintient dans une géographie des corps particulière, devait être aussi pris comme temps particulier. Ce qu'il n'est pas. Chaque minute est une vraie minute. C'est ça qui est fascinant, c'est que il y aura une sorte d'après, quel que soit cet après, hein, mais on pourra regarder par-dessus notre épaule ce que nous avons fait de ce temps et être extrêmement surpris d'avoir aussi peu vécu ce temps, ou alors de l'avoir vécu comme un rêve flottant.
Je suis content qu'il pousse un peu. Déçu qu'il pousse pas, c'est qu'il y a les dernières graines de mon père. Ils ont eu beaucoup de temps, ils ont eu beaucoup de mal à percer la terre qui était très très sèche.
Les activités sont en train de changer. Chez les artistes, par exemple, il y a plein de raisons qui les font agir bizarrement, mais c'est ça qui est marrant. C'est donc un temps à part aussi qui se construit pour des choses qui n'ont pas de raison de changer, en fait. Pas spécialement. Quant à la création artistique, là, c'est les très grands écarts. Il y a au moins pendant la première semaine de confinement, je voyais plein de potes qui étaient incapables de travailler artistiquement. Ils étaient démolis. Je sais pas pourquoi. Enfin, c'était pas une vraie démolition, c'était plutôt une sorte d'apathie. Donc, j'ai cherché à comprendre un petit peu les raisons, parce qu'elles sont mystérieuses pour moi. Mais je pense que c'est la partie la plus passionnante, celle de la temporalité. Enfin, ce qui se joue en ce moment, pour moi, c'est vraiment la question fondamentale. C'est la révision complète d'un rapport singulier au temps pour chacun d'entre nous, quelle que soit notre activité, donc pas forcément pour les artistes, pour tout le monde. Parce qu'il y a des choses qu'on tient pour vraies et sur lesquelles on consolide la ritualisation du quotidien. Ma journée commence avec la première cigarette. Quiconque comme moi a bu des hectolitres de café le dira volontiers. Moi, le matin, je suis rien sur mon premier café. Ah, c'est évidemment complètement faux. On s'en persuade, on finit par... C'est comme une sorte de litanie qu'on se raconte sur laquelle on construit son quotidien. Et là... Ce déplacement, ce rapport au tôt et au tard, ça change tout. La métaphore utilisée par les crapules politiques en général pour parler de la paresse, c'est les gens qui se lèvent tard. Ça n'a aucun sens. On peut se lever tôt pour glander, hein, y a aucun problème. Et on peut se lever tard et travailler comme un furieux, puis tôt ou tard, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je travaille la nuit, donc je suppose que quand on me voit émerger du lit à midi, on peut dire ceci ou cela. D'un autre côté, on peut aussi ne rien foutre. Hein. Je ne suis pas du tout en train d'ériger le travail en culte. Toujours pour dire que ce décalage temporel, c'est aussi une réappropriation douce, sans désir particulier, c'est quelque chose qui vient. C'est les sentiments d'impératif. J'ai eu plein de gens qui se sont toujours sans doute imaginés se lever tôt parce qu'ils seraient des lèvres tôt, se révèlent à eux-mêmes capables de changer de temporalité. Et ça ne va pas les transformer en quelque chose d'autre. C'est des choses précieuses, à mon avis, ça.
voilà, regarde qui pousse la terre. C'est marrant. Il a l'air puissant comme ça. Il soulève un bloc de terre. Cette petite tige de rien du tout.
Alors la campagne, c'est un peu différent, cette question des temporalités, parce que d'une part, les deux rythmes auxquels tu te fédères à la campagne sont ceux de la transformation physique des éléments naturels, donc la pousse des plantes, le changement des couleurs générales, et le rythme du travail agricole. Et ça, le rythme du travail agricole, il change pas en fait. Les paysans, ils vont au boulot là, et ils n'ont pas le choix. Ils n'ont aucun choix. Ils sont soumis, effectivement, à cette transformation des éléments naturels autour d'eux. Ils en ont déjà asséché parce qu'il a énormément plu pendant un mois. Donc, pendant tout ce temps, on ne peut pas travailler la terre, on ne peut rien faire quand il pleut autant. Donc, ils attendaient qu'une seule chose, c'est que ça se calme, alors ils bossent. Donc, nos horloges, à nous, à la campagne, bah, elles sont parfaitement insensibles à tout ça. Le problème, c'est que fait partie de l'occupation de ce temps présent une trop grande attention au devenir de la situation. Ça fait partie de ce qui déréalise ce présent, ce qui tend à en faire un faux temps, un temps à côté, un temps suspendu. Toute l'attention est concentrée sur ce qui vient. C'est à plusieurs titres pas très intéressant. C'est pas très intéressant parce que ça veut aussi dire que momentanément, la construction inouïe de ce présent que nous vivons, qui pourrait en être faite, est un peu laissée de côté. C'est, tu vois, comme authentique opportunité de construction. De construction collective à distance, ou plein de choses, enfin, ou d'imaginaire, il y a vraiment de quoi faire, c'est pas mal. Et d'autre part, parce que ce qui vient, c'est soumis à des conjectures tellement hasardeuses que, enfin, quand on a aussi peu pour penser, il vaut mieux pas penser. Tu vois, Voltaire disait tout l'intérêt qu'on porte à une chose ne prouve pas de l'existence de cette chose. Et là, la façon dont le futur est interrogé par toutes sortes de spécialistes autoproclamés, comme par tous ceux qui spécialisent de rien, sont juste angoissés par l'horizon, c'est tragicomique. Ça n'a aucune sorte d'intérêt en vérité. En soi, une épidémie, c'est qu'une épidémie, on s'en fout, il y en a eu d'autres, il y en aura d'autres. À part bosser sur la fabrication d'armes, bon, on s'en branle, quoi. On s'en fout absolument. Il y a des choses qui sont faciles à imaginer, mais sont-elles intéressantes à imaginer? Le fait, par exemple, que les règles sociales que les politiques expérimentent pour nous... limiter encore plus de mouvements et faire de plus en plus supporter d'infantilisation du comportement des adultes, parce que c'est bien ça, hein. Enfin, dire aux gens pas plus d'une heure, pas plus d'un kilomètre, c'est tellement débile que ah oui, c'est pas 1 100 km, hein, c'est pas 2, c'est tout le monde pareil, tout le monde a le même kilomètre, enfin, c'est quoi ces stupidités? Si tu veux vraiment parler à des adultes, tu vas parler à des adultes. Bon, bah, écoutez, faites gaffe à vos prochains, vous approchez pas trop, mettez des masques si vous voulez, etc. Et c'est fini. Il n'y a aucun besoin d'inventer une temporalité rigoureuse juste et de sortir l'armada de la police. C'est d'une stupidité, d'une violence et d'une infantilisation sans borne. Enfin, on vient de traverser quelques années de macronisme, que toute avancée dans le régime d'autorité, elle reste. Donc ça va rester. Mais on n'a pas besoin d'être un visionnaire. Mais est-ce que c'est vraiment intéressant? On s'en fout. On sait juste qu'il va falloir, une fois de plus, sortir dans la rue et puis se frotter avec des forces violentes, etc., etc. On le sait. Bon, ben voilà. Je pense que se concentrer sur le présent est infiniment plus excitant que d'imaginer la sortie. Voilà. Mais de mon point de vue, ça c'est pas un point de vue qui est lié à l'épidémie, ça n'a aucun rapport en fait. Il n'y a pas d'autre temps que le présent. Il n'y a que du présent. Voilà. Oui, c'est beaucoup déjà. Ouais, c'est beaucoup.